le magazine des Nations Unies.
Bienvenue sur la fréquence de la paix, c'est le magazine des Nations Unies et au sommaire de cette émission, droits de l'homme, justice sociale, stabilité et paix, des concepts qui sont revenus lors de la célébration de la journée internationale des droits de l'homme ce mercredi, une célébration marquée par plusieurs manifestations à travers tout le pays. Le magazine des Nations Unies revient sur cet événement dans un reportage mais aussi dans un entretien avec le directeur intérimaire du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le groupe de travail du Conseil de sécurité de l'ONU a bouclé la semaine dernière sa mission en RDC. L'équipe s'est rendue à Kinshasa puis à Goma. Nous ferons le point sur cette visite avec la chef de la délégation qui est notre invitée. Enfin, la MONUSCO de plein pied dans les îlots de stabilité. La route Boga-Bogoro-Bourassi, longue de 148 km, est en réhabilitation depuis 2 mois dans le territoire d'Irumu en province orientale. Des travaux qui suscitent la joie et l'adhésion de la population. Leur réaction dans cette édition et ce sera tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bon dimanche. L'actualité de la semaine qui s'achève a été dominée par la célébration le 10 décembre dernier de la Journée internationale des droits de l'homme. À Kinshasa, le ministère de la Justice a organisé une cérémonie commémorative en collaboration avec le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et des ONG de défense des droits de l'homme. Jean-Pierre Elali Coco a assisté à cet événement, suivi son reportage rendu par Nadine Foulan.
Le décor est planté. Officiel congolais, ambassadeur et représentant du corps diplomatique, activistes de droits de l'homme, tous se sont donné rendez-vous dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères pour célébrer le droit de l'homme. Le thème de la journée, droits de l'homme, 365 jours sur 365. Dans son allocution, Martin Kobler, représentant spécial des Ban Ki-moon, fait lecture des larges extraits du message du secrétaire général de l'ONU. Et pour le chef de la MONUSCO, les Nations Unies ont vocation de défendre le droit des vulnérables et de ces faits, elles sont partiales.
On dit toujours que les Nations Unies, ils sont impartiales et neutres. Mais c'est une erreur. Nous sommes impartiales en ce qui concerne les affaires domestiques d'un pays. Mais les Nations Unies, nous ne sommes pas neutres. Nous sommes sur le côté des vulnérables. L'agenda des droits de l'homme, l'égalité des femmes, la protection des vulnérables.
Pour sa part, la vice-ministre sortante aux droits humains, Mme Sabine Issaïdi, relate le progrès du gouvernement en matière de droits de l'homme.
Le président de la République a nommé sa représentante personnelle en matière de lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. L'adoption à la fin du mois d'août 2014 d'un plan d'action des forces armées de la République démocratique du Congo à travers l'augmentation des mesures préventives.
Pour Ilunga Numbi, représentant des ONG de défense des droits de l'homme, la force de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la force de ses idées pour changer le monde. Et grâce à elle, beaucoup de personnes, mais pas toutes, ont profiter de la liberté.
Et depuis que la déclaration a été adoptée, d'innombrables personnes ont pu profiter d'une plus grande liberté. Des violations ont pu être évitées. L'indépendance et l'autonomie ont été obtenues. Beaucoup de personnes, mais pas toutes, ont pu accéder à la liberté contre la torture, l'emprisonnement injustifié, les exécutions sommaires, les disparitions forcées.
Enfin, Abdulaziz Choué, directeur ad intérim du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, a mis l'accent sur la collaboration entre son institution et les gouvernements pour la protection et le respect des droits de l'homme.
Autre actualité de la semaine, c'est la résurgence des tensions entre Pygmées et Bantous dans le district du Tanganyika, c'est au Katanga. Alors Jean-Pierre Elali Coco est dans ce studio avec nous pour nous en parler. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Bettina. D'après OCHA, après une accalmie précaire en septembre et octobre dernier, l'on observe un regain des tensions entre Pygmées et Luba. Et pour preuve, toujours selon OCHA, une milice des Pygmées venue du village des Katobo, à près de 190 km au nord de Manono, a attaqué le 29 novembre dernier le village Muzozo, habité en majorité par les Luba. Bilan de l'attaque, près d'une dizaine de civils tués et des enlèvements. Cette situation a provoqué un mouvement de population vers Mukebo, au nord-est de Manono. Depuis cet incident, indique la source, les loubas de Kabeke se prépareraient pour attaquer les pygmées. Et les informations concordantes font état d'une organisation sur le terrain de chaque parti. Il faut dire, Bettina, que ces regains de violence interviennent après que les deux communautés aient pris l'engagement de fumer les calumets de la paix. C'était en juillet dernier, lors de la visite du commissaire des districts de Tanganyika dans les trois territoires de Nyunzu, Kongolo et Kabalo.
Merci Jean-Pierre pour ces précisions.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Quel est l'état des lieux des droits de l'homme en RDC? Comment comprendre l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme aux institutions judiciaires nationales dans la lutte contre l'impunité? Et quels sont les défis à relever en ce qui concerne le respect des droits de l'homme dans ce pays? C'est à ces questions et à bien d'autres que le directeur intérimaire du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a répondu. Monsieur Abdoul Aziz Thioye s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Abdoul Aziz Thioye, bonjour.
Bonjour.
Le monde entier a célébré aujourd'hui même la journée des droits de l'homme. Expliquez-nous d'abord, monsieur le directeur, les thèmes de cette année. Droits de l'homme, 365 sur 365 jours.
Merci beaucoup. Comme cela se fait à la veille de chaque célébration, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a choisi le thème « Droits de l'homme, 365 jours ». Ça veut dire que les droits de l'homme, ce n'est pas seulement le 10 décembre, mais c'est également tous les jours. C'est un combat de tous les instants. Tous les jours, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Donc les droits de l'homme doivent être respectés.
Doivent être respectés sans aucune limitation, de façon très très claire.
Brièvement, quelle est la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, si l'on prend par exemple les deux dernières années?
La situation des droits de l'homme au cours des deux dernières années, le bilan peut être mitigé, même si je l'ai dit au cours des différentes conférences de presse, où j'ai expliqué de façon très claire que nous récoltons des informations. Et ces informations nous permettent plus ou moins de donner des tendances sur l'évolution de la situation. Au moins, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début de l'année, nous avons noté une certaine réduction. Ça, nous l'avons expliqué à plusieurs reprises.
Donc, il y a eu des avancées.
Il y a eu des avancées. Oui. Il y a eu des avancées, même si les défis sont immenses.
Est-ce que nous pouvons avoir une déçue de ces avancées concrètement sur le terrain?
Sur le terrain, je vais donner juste un exemple. Je pense que je donne des cas emblématiques. De Minova, on se rappelle tous de la déroute des M23, qui, dans son sillage, viole, pille, procède à des exactions. Des investigations ont été ouvertes, des rapports ont été établis, la justice s'est saisie de cette affaire, a investigué, mais il y a eu des arrestations et des poursuites ont été enclenchées et finalement, évidemment, une décision de justice a été rendue. Il ne nous appartient pas de commenter une décision de justice, mais toujours est-il que, bon, évidemment, nous savons tous concrètement qu'est-ce qui s'est passé, mais on est parti de Minova à maintenant ce qui est en train de se passer. On n'a pas eu depuis 2012, excusez-moi, une situation telle que Minova.
Un début de lutte contre l'impunité au niveau des
forces armées. Bon, disons, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de condamnations. En tout cas, une décision de justice a été rendue sur une situation. Mais ce que je voulais juste dire en donnant l'exemple de Minova, c'est de dire, évidemment, des viols massifs tels qu'on les a eus de la part des forces de défense et de sécurité. Peut-être qu'on en a eu quelques-unes encore, mais pas dans l'ampleur ou à la même échelle que ce qu'on a eu sur Minova, par exemple. Donc, pour dire simplement que le fait de prendre des sanctions, le fait d'enquêter, de prendre des mesures pour corriger ce qui ne va pas, permet de prévenir des violations des droits de l'homme. Et c'est sur ça que j'ai envie d'insister.
Vous avez parlé des progrès qui ont été réalisés, et c'est bien. Quels sont maintenant les défis qui restent à relever dans le domaine, par exemple, de la lutte contre l'impunité et même des droits de l'homme? Et quels sont les défis qui restent à relever au niveau de la République démocratique du Congo?
Il y a des progrès, mais il y a encore des défis. Si vous permettez que je précise un petit détail.
Je vous en prie.
Il y a ce que nous appelons les aspects conjoncturels. Les aspects conjoncturels, c'est une situation exceptionnelle, inattendue, qui se passe. Une situation de conflit où vous avez des groupes armés qui occupent un espace et qui soumettent la population en coupe réglée, c'est-à-dire exactions, extorsion de fonds, pillage, viol, tuerie, ainsi de suite. C'est à peu près la situation que nous avons dans la zone de Béni ou qu'on a eu les années passées dans d'autres zones. Ça, c'est une situation disons, anormal, exceptionnel, qui n'arrive pas tout le temps, mais qui peut arriver. Il y a également des causes structurelles. Alors, pour les causes conjoncturelles des situations exceptionnelles qui se passent, évidemment, c'est la réponse, c'est d'agir sur des éléments de sécurité et de protection. Faire en sorte que, comme le font la force de la MONUSCO dans le cadre de son mandat de neutraliser les groupes armés, mais également pour les civils et dans le cadre des droits de l'homme, de travailler à lutter réellement contre l'impunité. Développer des dispositifs de protection avec les communautés et les autorités locales de façon à réellement permettre aux communautés de s'équiper elles-mêmes. Ça, c'est les aspects conjoncturels. Il se passe des situations anormales, nous enquêtons. Évidemment, il n'est pas toujours évident dans un contexte d'insécurité. On nous le reproche souvent de dire « vous mettez juste l'accent sur l'armée et la police ». Mais ce qu'ils le disent oublient qu'en réalité que c'est l'État qui a signé des conventions. Et ces conventions donnent la responsabilité à l'État de protéger les citoyens et leurs biens. Donc, ce qui les représente sur le terrain, les forces de police et les forces armées, ainsi que les agents de l'ANR, doivent avoir un comportement irréprochable. Mais bien sûr, les groupes rebelles font des exactions et des actes de barbarie qui sont innommables, qu'il faut condamner de façon très claire. Évidemment, le temps de la justice finit toujours par arriver. Et cet aspect de lutte contre l'impunité, je voudrais le souligner et le rappeler avec force. On nous dit, oui, mais pourquoi pas vous ne mettez pas l'accent sur tel groupe. Ces groupes-là, tôt ou tard, déposeront les armes, devront rendre compte de leurs actions.
Tôt ou tard.
Vous avez aujourd'hui, je cite un exemple, Thomas Lubanga, qui est un exemple évident, un exemple concret, réellement, d'un chef de guerre qui aujourd'hui est poursuivi pour des faits commis il y a longtemps, qui aurait pu penser que ça aurait pu se passer. Il y a un exemple beaucoup plus récent et à l'actif de la justice militaire congolaise, la condamnation de Jérôme Kakwavu, qui est un exemple évident que nous avons vu. Il y a aussi, si vous permettez que je le cite, il y a le procès 106 qui est en train de se dérouler et dont la sentence n'a pas encore été rendue. Tout ça montre effectivement que commettre des faits ne signifie pas que vous ne serez jamais poursuivi. Il y a également d'autres types de progrès en termes d'indemnisation. Par exemple, ce matin, vous avez suivi qu'on a annoncé que les victimes de Sango Moyo...
Ils seront dédommagés.
Elles ont été dédommagées.
Les victimes, oui.
C'est très encourageant parce que c'était ça aussi un dispositif qui manquait dans le dispositif de justice. Des décisions étaient rendues, mais évidemment, les compensations n'étaient pas versées. Il y a également des insuffisances pour lesquelles il faut nécessairement des actions de réforme. C'est des réformes du type législatif. Il faut des lois, il faut réformer les lois, il faut réformer les règlements. Il faut mettre en place des dispositifs beaucoup plus protecteurs. J'ai parlé ce matin de la Commission nationale des droits de l'homme. J'ai parlé de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Il y a déjà une loi qui criminalise la torture et une loi également sur les violences sexuelles. Sur ces causes structurelles-là, il faut davantage travailler. Et c'est cet aspect-là qui nous prend, nous, Bureau du conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, beaucoup de travail en termes d'assistance technique et d'appui direct aux institutions nationales.
Monsieur le directeur, parlons maintenant de l'opération Likofi. Vous savez que le gouvernement et même certaines organisations, certaines associations nationales ont contesté votre rapport sur cette opération. Et la conséquence est que votre prédécesseur, Scott Campbell, a été déclaré personne non grata par le gouvernement. Et maintenant, le gouvernement, selon certaines sources, veut continuer l'opération contre vents et marées pour, dit-on, sécuriser la population congolaise. Alors, de votre côté, qu'est-ce que vous allez faire si le gouvernement continue, passant à mener cette opération? Quelle sera votre réaction et qu'est-ce que vous allez faire entre-temps?
Ok. Je voudrais juste, si vous permettez, que je précise une opération de sécurisation. Lutter contre la criminalité est une action légitime. Il n'y a rien à dire. Évidemment, dans toutes les démocraties modernes, devrais-je dire, le monopole de la force, le monopole de la force légitime appartient aux forces de sécurité et de défense qui doivent l'utiliser de façon réellement respectueuse des droits et des libertés, de façon très claire. Nul n'a le droit d'attenter à la vie d'autrui. Que ce soit le petit bandit du coin, comme le policier, de qui on attend beaucoup plus un comportement exemplaire. C'est ça que je voudrais dire, que c'est très très clair. Que le gouvernement décide de poursuivre l'opération Likofi, ça ne nous pose aucun problème. Parce qu'en réalité, il y a un phénomène de criminalité urbaine qui existe dans ce pays. Et évidemment, il appartient aux forces de sécurité et de défense, notamment aux forces de police, qui dans le rôle de maintien de l'ordre doivent réellement veiller à protéger les citoyens et leurs biens. Mais ce qui pose problème, c'est que réellement, qu'il y ait des abus. Et les abus doivent faire l'objet d'enquêtes, que les auteurs soient identifiés et poursuivis de façon très très claire.
Donc, en d'autres termes, vous allez continuer votre travail de protection et de défense des droits de l'homme.
Absolument. Je pense
même
que...
s'il s'agit de la continuation de l'opération Likofi.
Voilà. Nous allons continuer notre travail. Nous avons un mandat qui nous est octroyé. Nous avons une responsabilité. Nous sommes tenus par le mandat de la MONUSCO, mais également nous appartenons au bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à qui l'Assemblée Générale des Nations Unies et bien avant le Conseil économique et social a attribué le rôle, un rôle consultatif, un rôle de conseil et d'assistance technique et de surveillance, d'analyse et d'établissement de rapports. C'est un organe des Nations Unies qui nous donne ce mandat-là de façon... Et le Congo est membre des Nations Unies. Nous n'avons aucun intérêt à dénigrer qui que ce soit. Nous sommes ici, évidemment, parce que nous sommes partenaires du gouvernement. Tout ce que nous écrivons est porté à l'attention des autorités bien avant de le rendre public, réellement. Si les décisions sont prises dans les délais, au moment où nous décidons de sortir le rapport, nous mentionnons que oui, nous avons rapporté cette situation, mais voilà les sanctions qui ont été prises. Mais évidemment, si nous interagissons, nous entretenons un dialogue avec les autorités et qu'aucune action n'est prise, évidemment, oui. Ça, nous allons, en suivant les règles d'objectivité et d'impartialité, donner ce que nous avons constaté, faire nos analyses, mais en même temps, publier la réaction du gouvernement, c'est ce que nous avons fait.
Abdoul Aziz Thioye, je vous remercie.
Je vous remercie. Merci beaucoup.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le groupe de travail du Conseil de sécurité de l'ONU sur les enfants et les groupes armés, fort de 8 membres, a séjourné en République démocratique du Congo du 30 novembre au 4 décembre 2014. Il s'est rendu à Kinshasa et à Goma où il a échangé avec les autorités congolaises sur la situation des enfants associés aux forces et groupes armés. À l'issue de la mission, Sylvie Lucas, ambassadrice du Luxembourg à l'ONU et chef de délégation, s'est confiée à Radio Capi. Elle est accompagnée de Sylvie Fouet, représentante adjointe de l'UNICEF en RDC. Nos deux invités répondent aux questions de Jean-Pierre Elali. Coco, suivez.
Madame Sylvie Lucas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de délégation du groupe des conseils de sécurité des Nations Unies pour les enfants et les groupes armés. Vous venez de faire une visite de travail en République démocratique du Congo et vous avez été à Goma et maintenant vous êtes à Kinshasa. Vous avez rencontré les différentes parties prenantes sur la situation des enfants associés aux forces et aux groupes armés en République démocratique du Congo. Est-ce que nous pouvons connaître les progrès qui ont été réalisés dans les rencontres que vous avez faites sur le terrain?
Oui, donc en fait, nous sommes ici le groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés. Nous sommes là depuis dimanche soir. On était d'abord à Kinshasa et ensuite, comme vous l'avez dit, on s'est rendu à Goma et pour une dernière journée de consultation ici sur Kinshasa encore aujourd'hui avant de rentrer. Un de nos objectifs de notre visite était de discuter des progrès accomplis mais aussi des défis qui restent. Et dans les différentes discussions, aussi bien ici à Kinshasa que sur Goma, on a pu se rendre compte vraiment du grand engagement des autorités congolaises pour prévenir et mettre fin au recrutement et l'utilisation d'enfants, mais aussi lutter contre les violeurs sexuels et les autres violations graves à l'encontre des enfants. Donc il y a un grand nombre de pas qui ont été accomplis, y compris au niveau provincial, pour mettre en œuvre ces engagements. Il y a aussi des directives très claires, par exemple, qui ont été émises par le ministère de la Défense aux RDC en termes, justement, sur la mise en œuvre du plan d'action, sur les enfants détenus anciennement associés avec les forces et groupes armés. On a eu l'occasion à Goma aussi de nous entretenir et de voir comment les programmes de séparation et de réintégration des enfants anciennement associés sont mis en place. Donc, il y a pas mal d'efforts qui sont accomplis. Les défis qui restent, c'est effectivement d'aller de l'avant, de consolider ces progrès, de les systématiser, de les institutionnaliser au niveau de tout le pays et de continuer la mobilisation de manière générale et de continuer aussi les efforts en termes de lutte contre l'impunité et de lutte contre les violations en général.
Est-ce que dans votre séjour là à Goma, est-ce que vous avez eu le temps de voir aussi les groupes armés et leur parler, ou même leurs responsables?
Non, nous n'avons pas eu de contact avec les groupes armés en tant que tels. Nous avons le plan d'action, effectivement, qui a été signé par le gouvernement. Les principes de ce plan d'action concernent aussi les groupes armés. On a pu en discuter avec les autorités, la nécessité de aussi avoir accès aux groupes pour essayer d'engager avec eux aussi un débat à ce sujet. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas, je crois, avec la situation qui est en cours, les processus qui sont en cours, les opérations, ce n'est pas pour nous. Maintenant, en tant que groupe de travail, on n'est pas allé au-delà du Goma.
Vous parlez de l'engagement des autorités gouvernementales avec qui vous avez eu des entretiens. Et concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour séparer les enfants des forces armées et même des groupes armés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je pense que vous êtes rendu aussi dans des centres de transit où se trouvent les enfants. Qu'est-ce que les autorités vous ont dit concrètement concernant leur engagement, bien entendu?
Le gouvernement a conclu en octobre 2012, donc il y a plus de deux ans, un plan d'action avec les Nations Unies. C'est un plan d'action donc pour lutter contre le recrutement et l'utilisation d'enfants, et aussi donc sur la lutte contre les autres violations commises. Dans ce plan d'action, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris. Comme j'ai fait référence, par exemple, il y a eu une nomination récemment de la représentante personnelle du président de la République chargée de la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement d'enfants. Il y a eu des publications de directives, il y a eu de sensibilisation des différents responsables militaires pour les campagnes de recrutement normales, pour faire en sorte qu'il y ait une mise en œuvre d'un mécanisme de vérification de l'âge, pour faire en sorte que justement qu'on vérifie bien qu'il n'y a plus de recrutement dans l'armée, l'âge des enfants. En plus, il y a pour la réintégration, il y a des programmes qui sont en cours avec les ONG, avec l'appui d'UNICEF notamment. C'est ce type de programme qu'on a pu visiter. Ce sont donc les structures non gouvernementales, le CAGET, le PAMI, qu'on a pu visiter à Goma, entre autres.
Oui, maintenant je me retourne vers Mme Sylvie Fouet. Vous êtes représentante adjointe de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Quel type de réponse que l'UNICEF réserve donc aux enfants associés aux forces et groupes armés en République démocratique du Congo, vous qui êtes sur le terrain?
Merci beaucoup. Effectivement, les enfants sont souvent des cibles faciles et les plus exposées dans les situations de conflit. Et l'ensemble du personnel de l'UNICEF, mais aussi les partenaires de la protection, sont mobilisés dans toutes les zones de la RDC et en particulier au niveau des provinces à l'Est. Alors, il y a une étape d'abord de sensibilisation, et au niveau des communautés, nous avons des points d'écoute. Nous impliquons les volontaires communautaires et nous créons des espaces amis des enfants. Alors, plus précisément sur la réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés, il y a un premier passage qui est une démobilisation par un centre de transit ou par une famille d'accueil. Mais effectivement, l'objectif, c'est la réunification avec la famille. Et au-delà de la réunification, c'est effectivement la réintégration socio-économique dans la communauté. Parfois, les enfants ont manqué un cycle scolaire. Parfois, les enfants n'ont pas eu les soins ou la santé nécessaire pour être des adultes productifs. Donc on doit à la fois se soucier, je dirais, du mental et aussi effectivement de leur retrouver une sorte de normalité. Alors un défi, c'est que les centres de transit parfois durent un peu longtemps, puisque vous savez encore, et Madame Sylvie vient de le mentionner, la situation étant encore volatile dans le pays, il n'est pas toujours facile de réintégrer les enfants dans leur communauté d'origine.
Madame Lucas et Madame Fouillet, je vous remercie.
Merci beaucoup.
La MONUSCO réhabilite depuis près de deux mois le tronçon routier Bogora-Boga-Bourassi, long de 148 km en territoire d'Irumu. C'est la nouvelle des provinces. Les travaux sont effectués par les soldats népalais de la MONUSCO et à la demande du gouverneur. Comment les usagers apprécient-ils cette route? Quelles sont leurs attentes sur ce projet? Et quelle est l'importance économique de cette route dans la région? Réponse dans ce reportage de Jean-Claude Loki.
Pratiquement depuis le mois d'août de cette année que la MONUSCO a déployé une équipe de génie militaire dans cette entité. Sur place, machines excavatrices, chargeurs, niveleuses, camions ben des Nations Unies sont à pied d'œuvre. À ce jour, le tronçon Gueti-Abeba est complètement réhabilité. pas de bourbier, pas de nid de poule. Le trafic est fluide, comme le témoignent ici les usagers trouvés sur place.
Là où les engins de la Monusco sont passés, c'est bien fait. S'ils travaillent comme ça jusqu'à Guéti, nous pensons que ce sera une bonne chose. Sur place, la Monusco a déjà déversé des moellons, des graviers. Nous passons sans problème, mais il faut qu'ils continuent jusqu'à Boga. Comme ça, la population pourra s'approvisionner en cossettes de manioc sans problème. Qu'on arrange la route jusqu'à Guéti parce que nous avons des difficultés pour circuler. Je vois que la route est maintenant en très bon état. Pendant la période des pluies, l'état des routes se dégrade. Le contingent népalais de la Monusco fait du bon travail. Moi qui suis conducteur de moto, je pourrais maintenant rapidement me déplacer. Selon moi, la consommation en carburant pourra diminuer.
Au départ, cet axe devait être entretenu par la société Titan sur financement de l'entreprise pétrolière Total, un projet qui n'a pas abouti selon le gouvernement provincial. La Monusco a alors été sollicitée par le gouvernement de la province orientale pour prendre le relais. Une initiative saluée par les habitants de cette chefferie de Walendu-Bindi. Le chef du groupement Zadou estime que la réhabilitation complète de cet axe, notamment jusqu'à Bouguma, frontalier avec l'Ouganda voisin, pourra relancer les activités économiques dans la région. La Monusco envisage de réfectionner cet axe jusqu'à Bourassi, long de 148 km. Quel rôle économique joue cette route dans le développement de ce milieu? Écoutez, Angaï Kambado, chef de Nota Benguit, il a été joint au téléphone.
Ça alimente à farine ce qu'on appelle communément le foufou blanc sur le marché des Bounia. Pour ne pas exagérer, au moins un tiers des foufous blancs, et sa provenance des Tchèques et Boga aussi. Alors, si cette route est verte, nous pensons que même les deux tiers des foufous blancs qui est consommé à Bounia, attendez, Bounia, rapidement et les prix tendraient même à baisser. Pour Boga, Boga est une chefferie qui produit à grande quantité le sorgho. Alors ce sorgho vient de Boga, transite par Bounia pour la vente en or Kiwabeni. Ça nous faciliterait l'approvisionnement à produits finis de première nécessité tels que le sorgho, tels que du sel et autres produits manufacturés.
Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question des Nations Unies.
La situation sécuritaire à Béni a été abondamment évoquée lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier. Je vous propose la question d'un confrère journaliste adressée à Martin Kobler ainsi que la réponse évidemment du chef de la MONUSCO.
En dépit de la présence des forces onusiennes et congolaises à l'est du pays, notamment à Béni, la situation continue toujours de s'empirer. Concrètement, quelles sont les stratégies que la MONUSCO entend arrêter pour finir avec tous ces massacres?
En ce qui concerne Béni, je crois que le porte-parole militaire a élaboré sur les actions militaires. Moi-même, je fais la navette. La semaine dernière, j'étais deux fois à Béni. Une fois accompagné par les ambassadeurs des P3, j'ai l'anglais, l'ambassadeur du Royaume-Uni, des États-Unis et les collègues de l'ambassade de France pour discuter avec les militaires, avec la brigade, avec la société civile, avec l'administrateur du territoire la situation. Moi-même, j'ai insisté de visiter les places du massacre. J'étais à Iringeti et j'ai parlé avec la population pour qui aussi ont posé des questions. Alors, qu'est-ce que la MONUSCO fait? Il faut dire qu'on a 8000 FRDC par là, on a 1500 de la brigade dans l'environnement. Mon message, c'est le suivant. Il faut rétablir et travailler sur le triangle de la confiance entre la MONUSCO, les FRDC et la population. Et j'ai lancé un appel même en Swahili hier à la population à Béni de nous soutenir. Il faut coopérer. Ça ne marche pas que les victimes qui sont gravement blessées ne peuvent pas être évacuées par les hélicoptères de la MONUSCO. Ça ne marche pas. Il faut les laisser atterrir. Il faut les sécuriser même. Nous sommes dans le même côté. Nous voulons combattre ensemble. Les FRDC, la MONUSCO et la population.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Sandra Pongondo, je suis la fille aînée de Pongolov. Je suis mariée, mère de 3 enfants, Destiny Curtis et Melody. J'ai fait l'école primaire à l'ISTEC en Galima. J'ai obtenu mon diplôme à l'an 2000, section littéraire, au lycée Boussangani. Et j'ai poursuivi mes études universitaires aux facultés catholiques d'abord et à l'IFESIC en journalisme. Je suis actuellement protocole assistant à la MONUSCO et où je fais différentes tâches administratives et protocolaires. Parmi mes tâches quotidiennes, j'accueille les ambassadeurs, je prépare les réunions des VIP et je prépare les documents de voyage des corps diplomatiques, des VIP MONUSCO et du gouvernement. Et aussi, je m'occupe de tout ce qui concerne leur voyage, donc leur horaire hebdomadaire. Voilà. Avant la MONUSCO, j'ai été durant 5 ans protocole à l'agence de voyage Geoffrey Travel. Et après, j'étais à l'Assemblée provinciale où j'étais aussi protocole. Et voilà. Lors de mon temps libre, je pratique la natation, j'écoute du gospel et je fais moi-même la musique. Je dirige aussi la chorale de la MONUSCO, dénommée Cœur de la MONUSCO, où nous chantons la paix. J'aime manger, j'aime chanter, j'aime donner la joie au cœur attristé. Et aussi, je suis présidente de la fondation Pongolov, la fondation qui s'occupe des femmes vivant avec handicap et des orphelins. J'aime le gospel music. Et je pourrais dire que j'aime la musique qu'a fait ma mère, puisque c'était une musique pure. Bako ebi sangai balobi. Bungo ezali na sukate onati kai nalindi yoka dia banza wa mama. Après la MONUSCO, j'ai l'ambition de faire ma carrière musicale et aussi de contribuer fortement à l'autonomisation de la femme vivant avec handicap et à l'épanouissement des enfants orphelins au sein de la Fondation Pongolov. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Et pour la semaine qui commence, votre magazine suivra de près les activités de l'Organisation internationale pour les migrations à l'occasion de la journée internationale des migrants qui sera célébrée le 18 décembre prochain. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Ce numéro a été coordonné par Jean-Pierre Elali Coco, qui était aussi au reportage. Paul Badianyama était à la régie et Lydie Bettina à la présentation. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet. C'est le www.radiookapi.net. Excellente journée dominicale et à la semaine prochaine.